Alors c'est la fin de cette lettre que nous avions commencée au mois de septembre. On a mis 2 mois et demi pour le lire. Je pense que quand la lettre est arrivée à Thessalonique, ils l'ont lu plus rapidement. Mais ils ont certainement pris le temps aussi de réfléchir à son contenu. Et on arrive au tout dernier verset. La semaine dernière, nous avions parlé de notre progression dans la foi par le moyen de l'écoute du Saint-Esprit, des prophètes, en examinant les Écritures. La semaine précédente, nous avions parlé de la joie et de la prière, la joie sans cesse, qui consiste en partie à remercier Dieu pour tout ce que nous avons. Et on arrive aux dernières salutations dans cette lettre, que je vais lire du verset 23 au verset 28. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. J'en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc voilà, les salutations finales. Verset 25 à 27, je demande la prière, je demande à chacun de se saluer avec amour, que cette lettre soit lue à tous les chrétiens de l'Église, et il termine avec ce mot la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. On a chanté ce matin la grâce. Un petit élément intéressant, c'est que toutes les lettres de Paul, sans exception, mentionne la grâce au cours des 2 ou 3 premiers versets et au cours des 2 ou 3 derniers versets. Parce que c'est tellement important, c'est comme chaque fois un sandwich de la grâce. Avec la grâce à chaque bout et tout l'enseignement au milieu. Mais ce dont je veux surtout parler ce matin, c'est les versets 23 et 24. C'est ce qu'on appelle en théologie la persévérance des saints. Ça, c'est le nom de la doctrine. Si on veut le mettre avec une question beaucoup plus terre à terre, c'est est-ce qu'on peut perdre son salut? Et ça, c'est la question que l'on va voir ce matin, parce que ce sont les versets 23 et 24 qui en parlent. Alors, comment on va procéder? D'abord, on va regarder ce que disent ces 2 versets. Ensuite, je vais poser la question, alors, pourquoi, pour quelle raison peut-on penser qu'il soit possible de perdre son salut? Et on va essayer de conclure, est-ce que cela est possible ou non, quand on regarde l'ensemble des Écritures. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de regarder ces 2 versets que je vais relire, les versets 23 et 24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Et juste pour le mettre dans le contexte de cette lettre, nous avons lu au premier chapitre, Paul dit, on raconte partout comment vous, Thessaloniciens, vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils parlent de leur vie, et il y a tout un chapitre, nous avons lu le chapitre 4, qui parle du retour du Seigneur, mais, et de la mort, et entre les deux, voilà notre situation aujourd'hui en vie, entre les deux. Si vous êtes né de nouveau, vous attendez la vie éternelle. Et actuellement, nous vivons sur cette terre, et comment va-t-on faire? On a pas mal lu cela, je vais revenir à ça un petit peu, mais le but, en fait, de ce verset, c'est de nous encourager à aller jusqu'au bout. Pas simplement bien commencer, mais aller jusqu'au bout. Première chose qui est dit, c'est que Dieu est un Dieu de paix, que le Dieu de la paix vous conduise. Et quand on voit les combats de cette vie, les luttes, que ce soit la situation sociale, que ce soit notre propre vie, que ce soit notre cadre de vie, c'est comme la question tout à l'heure de l'enfant, hein. Si on parle de Jésus, est-ce qu'on va nous faire du mal? Alors, il faut se rappeler que Dieu est un Dieu de la paix, qui veut nous donner le shalom, la paix qui vient de lui. Ça, c'est important de commencer avec ça. Deuxième chose dans ce texte, c'est qu'il va nous conduire vers la sainteté, qui nous conduise lui-même à une sainteté totale. C'est quoi la sainteté? Avant d'aller plus loin, je pense que l'on peut dire il y a deux aspects. C'est d'une part ressembler au caractère de Dieu. On parle de ses attributs, ça veut dire comment il est notre Dieu. Certains de ses attributs sont uniques à Dieu, sa toute-puissance par exemple, sa connaissance de toutes choses, son omniscience. Mais d'autres aspects de ses attributs concernent l'éthique, la moralité. Dieu est bon, il ne ment pas, il est amour, et nous sommes appelés à lui ressembler par rapport à ses attributs moraux. La deuxième chose, le deuxième sens de sainteté, c'est qu'on est en quelque sorte mis à part. Donc, d'où vient le mot consacré? Comme les prêtres qui étaient consacrés, ça veut dire mis à part pour le service de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des prêtres. C'est le sacerdoce universel, hein, pour utiliser un terme un peu technique. Nous sommes tous des prêtres, donc nous sommes tous mis à part pour le service de Dieu. Et ça, c'est ça, la sainteté, ressembler au caractère de Dieu et être mis à part pour lui. Et nous l'avons déjà vu dans ce livre, cette lettre, au verset 3 du chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. Ou la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, selon l'autre version. La volonté de Dieu, c'est ça. Et nous avons déjà également vu, dans ce même chapitre 4, que c'est progressif. Le chapitre 4, verset 1 dit que nous avons appris comment plaire à Dieu, et l'apôtre a dit progresser encore. Et au chapitre 10, nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Pourquoi insister là-dessus? Parce que la sainteté n'est pas acquise une fois pour toutes, comme par une sorte d'ascenseur qui nous monte d'un seul coup vers la perfection. On dit toujours la perfection n'est pas de ce monde, même pour les chrétiens. On aura des luttes, des progrès à faire tout au long de notre vie. C'est donc un processus dans lequel nous sommes engagés dès notre nouvelle naissance pour progresser et toujours aller plus loin avec le Seigneur. Donc Dieu va nous conduire vers cette sainteté. Ensuite, selon ce texte, cette sainteté concerne notre être tout entier. Il dit que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé. Il reste ça. Esprit, âme et corps. On peut parler des trois dimensions de la personne humaine. Notre corps, c'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde créé. Le monde est matériel, nous sommes aussi créés de matière. Et ce corps, c'est par ce corps que nous exprimons notre foi en Dieu. On n'est pas des esprits désincarnés, en quelque sorte. Nous vivons dans un corps et beaucoup de péchés faut éviter, par rapport auquel il faut progresser dans le bon sens, c'est par notre être extérieur, notre corps, qu'on les commet. Ensuite, il y a notre âme. Et là, on peut le définir comme la dimension de la personne humaine qui a considéré comme la relation avec nous-mêmes et avec le monde, avec les autres. Donc, notre conscience de soi, en quelque sorte. On est conscient qu'on existe. On est conscient de sa propre pensée. On est conscient des gens qui sont autour de nous. Donc ça, c'est notre âme. Et l'esprit, on peut le considérer comme notre relation avec Dieu. Cela dit, en réalité, il est pratiquement impossible de distinguer. Et d'ailleurs, pour aller plus loin encore, presque chaque verset qui parle de notre esprit, dans un autre verset, met le mot âme à la place, et vice versa. Donc on ne peut pas définir vraiment une différence entre l'âme et l'esprit, mais on peut dire qu'il y a une tendance à penser que notre âme, c'est un peu notre conscience de soi, et que notre esprit, c'est la conscience de Dieu. Mais en réalité, dans la Bible, on parle plutôt de dualité, extérieur-intérieur, chair et esprit, corps et cœur, corps et esprit, corps et âme. C'est la seule verset de toute la Bible qui met à la fois âme et corps dans le verset. Pardon, âme et esprit dans le verset. En tout cas, il faut bien retenir que cette sanctification concerne notre être tout entier. Ensuite, c'est notre être doit être conservé irréprochable. Comment pouvons-nous être irréprochables dans ce monde? Je pense qu'il y a toujours, il y aura toujours deux réponses à cela. La première réponse, c'est qu'on cherchera toujours à être le plus irréprochable que possible dans notre comportement. On cherchera cela. Mais d'autre part, selon 1 Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, nous leurrons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Donc, il faut confesser nos péchés, et Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Et donc, on est irréprochable à ses yeux. Il y a toujours les deux aspects. Si on dit simplement, je veux absolument être parfait, comme un homme une fois qui m'avait dit, ça faisait 3 ans qu'il n'avait plus péché. Mais j'étais avec un collègue, d'ailleurs je suis sûr que j'ai déjà raconté ça, un collègue lui a dit qu'il avait envie de lui donner un coup de poing dans la bouche pour savoir si ça allait continuer. Bon. Donc, c'est impossible que l'on ne pêche plus. Mais, en même temps, si on dit « Ah ben Dieu pardonne et qu'on ne fasse pas l'effort de progresser, c'est pas biblique non plus. » Et on voit les deux choses d'ailleurs dans la première lettre de Jean, que j'ai cité tout à l'heure, hein, « Si nous confessons nos péchés, les fidèles et juges pour nous pardonner. » Et il dit, chapitre 2, verset 1, les deux choses. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. » Donc ce verset dit en toutes lettres que à la fois il écrit pour que l'on ne pêche pas, mais si on pêche, il y a le pardon. Et c'est comme cela qu'on est conservé irréprochable. Tout cela en vue du retour du Seigneur, que l'on soit irréprochable lors du retour de notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous avons parlé de ça au chapitre 4, où les Thessaloniciens se faisaient des soucis par rapport à ceux qui étaient déjà décédés. Est-ce qu'ils vont passer à côté? Et Paul dit non, que l'on soit déjà décédé décédé ou que l'on soit vivant au moment du retour du Seigneur, on sera ensemble. Donc, puisqu'on ne sait pas quand cela se passera, je pense que le raisonnement en partie, c'est bah, vous seriez bien embêté si vous étiez en train de faire ou d'agir d'une façon qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu au moment où il reviendra. Et puis, quel est notre garantie? Verset 24, celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Donc compte sur le Seigneur. C'est lui qui nous aidera à tenir bon jusqu'au bout. Verset 24, celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Alors, la question est posée. On a regardé cela dans le cadre de ces deux versets. Alors, pourquoi certains chrétiens craignent-ils de perdre leur salut? Je crois qu'il y a au moins trois raisons pour cela. La première raison, c'est qu'ils peuvent citer des exemples bibliques. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 2, les versets 18 et 19, nous disons « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Voilà un premier texte qui parle de gens qui sont sortis du milieu de nous. Ensuite, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20, c'est le chapitre où Paul fait venir les anciens d'Éphèse pour leur donner des rappels et des consignes sur leurs tâches. Et puis il dit au verset 29 et 30, « Je sais qu'à son départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous. Ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner des disciples à leur suite. » Donc voilà, au sein même d'une église, des gens sont comme des loups cruels peuvent entraîner des personnes, des disciples à leur suite. Et puis il y a le cas très célèbre de Démas, dont Paul dit dans 2 Timothée 4 et le verset 10, Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Et il est parti pour Thessalonique. Alors, comment peut-on réagir face à ces exemples? Je crois qu'il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que on peut penser qu'il n'était pas vraiment converti, pas vraiment né de nouveau. Donc, c'est pour cela qu'à la fin, ils ont quitté l'Église et la communion des chrétiens et ont abandonné le Seigneur. Deuxième cas de figure, ils étaient vraiment convertis et Dieu est patient, il va les rappeler, ils vont revenir. Et le troisième cas de figure, ils sont vraiment convertis, nés de nouveau, ils ne vont pas revenir, ils se privent de la vie de l'Église, de l'enseignement, du soutien des autres, de la communion fraternelle, mais Dieu les garde seulement, selon 1 Corinthiens 3, ils vont perdre leur récompense. Dans ce chapitre, Paul dit qu'il a bâti sur un fondement qui est Jésus, et chaque chrétien doit bâtir avec du matériau différent. Par exemple, au verset 12, il dit qu'on doit construire ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais si on construit avec du bois, du foin ou de la paille, le feu le brûlera. Conclusion, verset 15, si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. La deuxième raison pour laquelle les gens ont peur de perdre leur salut, c'est qu'ils pensent qu'ils ont commis un très grave péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Nous avons vu la semaine dernière que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, mais ces chrétiens qui ont peur de perdre leur salut, lisent par exemple le Matthieu chapitre 12 et le verset 31, où Jésus dit « Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. » Donc on peut conclure que si quelqu'un pense avoir commis ce péché, au moins c'est ce que je dis sur le plan pastoral, c'est que justement ils n'ont pas commis. Le Saint-Esprit leur a montré que c'est un péché, ils peuvent le confesser et être pardonnés. Parce que ceux qui ont commis ce péché contre le Saint-Esprit se sont endurcis le cœur et puis ils s'en fichent royalement. Troisième chose, peut-être le plus difficile, c'est qu'il existe certains textes bibliques, qui ont fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, qui peuvent enseigner quelque part qu'il est possible de perdre son salut. Et en particulier, il y en a deux dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6 et le verset 4, 4 à 6, je lis. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Et puis au chapitre 10 de cette même lettre aux Hébreux, le chapitre 10 et les versets 26 et 27. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce texte ? Bien sûr, nous n'avons pas le temps de faire une analyse profonde ce matin, parce que c'est plutôt une prédication sur un Thessalonicien, mais je dirais quatre choses. D'abord, l'auteur ne dit pas expressément que des chrétiens ont fait cela, ni en général, ni ceux connus par les destinataires de cette lettre, et surtout pas les destinataires de cette lettre. Parce que deuxièmement, chapitre 6, l'apôtre affirme sa conviction que ses destinataires sont sur la bonne voie. Au verset 9 de ce même chapitre 6, nous disons « Mais si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Et un petit peu plus loin, dans ce même chapitre, le verset 19, dit que nous avons une espérance que nous possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme qui pénètre derrière le voile où Jésus est entré pour nous en tant que précurseur. Autrement dit, dans le texte même qui parle de la possibilité de chute, l'auteur dit que les chrétiens ont fait preuve de bonne volonté et d'amour, et surtout il dit qu'ils ont une ancre solide qui va les rattacher à Dieu. Parce que comme une ancre d'un bateau, on la jette au fond de la mer, l'ancre de notre âme, au contraire, pénètre derrière le voile, là où Jésus est entré pour nous en précurseur, c'est-à-dire dans les lieux célestes, auprès de son Père. Donc nous sommes rattachés à lui par cette ancre. Troisième chose que l'on peut dire sur ces textes, c'est que le texte est aussi en forme d'hypothèse. Par exemple, au chapitre 6, après avoir dit que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, etc., continuent et qui pourtant sont tombés. Et dans la langue d'origine, en grec, c'est marqué « étant tombés » et parfois, pas toujours, mais parfois, ce participe présent est l'équivalent d'un si. Et ce mot si, on le retrouve de toute façon en toutes lettres dans le chapitre 10 et le 20, verset 26. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu les connaissances de vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc c'est une hypothèse. Cela dit, je ne voudrais pas diminuer la force de ce texte. Ces textes sont en effet des avertissements forts, solennels, et je pense qu'ils contribuent en fait à notre conservation. Ils contribuent à ce que nous nous accrochions à Dieu, parce qu'ils attirent notre attention sur cette éventualité terrible de perdre son salut. Mais je pense que le souci de l'auteur de ces livres, du pastoral, et il a écrit ces livres justement pour que ses destinataires restent attachés à Dieu. Alors, en conclusion, je pense que l'on peut dire que, tout bien réfléchi, le poids des études bibliques, pardon, des textes bibliques, va dans le sens de l'assurance du salut. Par exemple, il y a plusieurs textes qui disent que nous avons déjà la vie éternelle. Il ne dit pas que nous aurons la vie éternelle, mais que nous avons la vie éternelle. Par exemple, dans Jean 20, les versets 30 et 31, et dans 1 Jean 5, 11 à 13, que je vais lire. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc là, une vie éternelle qui s'arrête quelque part n'est pas la vie éternelle. Deuxième verset, c'est les paroles de Jésus dans Jean 10, verset 29, où Jésus dit, « Mon Père, qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Personne ne peut agir sur un chrétien pour le ravir de la main du Père. Ensuite, il y a le verset assez connu dans Philippiens chapitre 1 et le verset 6. Vous pouvez l'écrire aux Philippiens. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc voilà trois raisons textuelles des textes qui montrent que nous avons la vie éternelle et que personne ne peut nous ravir de la main du Père. Mais je pense que l'argument le plus fort est au fond que nous sommes des élus, nous avons été choisis par Dieu, et à cause de cette doctrine de l'élection, nous savons que il va nous garder parce qu'il nous a choisis. Et là, je reviens au début de nos études, au mois de septembre, au premier chapitre des Thessaloniciens, et le verset 4, où Paul, après, il va parler de la conversion. Il va parler de comment ils sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles, c'est la fin du chapitre. Mais il dit au verset 4, « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qui vous a choisis. » Donc je pense que cette doctrine de l'élection, pas toujours facile à accepter certes, mais qui est quand même tout à fait un enseignement du Nouveau Testament, est au fond la garantie que Dieu qui nous a appelés va nous garder. Il va nous garder jusqu'au bout de notre périple terrestre, pour que nous puissions entrer dans la gloire éternelle en regardant la gloire que Jésus avait auprès de son Père, et au sujet de laquelle il prie son Père dans Jean chapitre 17, que ses disciples puissent le voir un jour. Je pense que sa prière a été et sera exaucée.